Place à notre grand débat sur l'avenir de nos barrages avec Pascal Couchepin et Pierre-Yves Maillard dans notre studio à Lausanne. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Pascal Couchepin, PLR Valaisan, ancien président de la Confédération, ancien conseiller fédéral en charge de l'économie, puis de l'intérieur. Vous êtes à ma droite et à ma gauche, en toute logique, Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d'État vaudois, en charge de la santé et de l'action sociale. Cette question des barrages, messieurs, elle a fait couler beaucoup d'encre depuis l'annonce d'Alpiq, il y a 6 semaines environ, et sa volonté de céder une bonne partie de ces barrages est pour cause. L'énergie hydraulique, c'est 60% de notre approvisionnement énergétique. C'est l'énergie helvétique, par excellence, on va dire. Il y a aussi une forme de dimension identitaire. On y reviendra dans ce débat. Or voilà, ces dernières années, tout a changé. On va poser le cadre de ce débat avec vous, Stéphane Delery. On peut dire qu'on vit un moment très particulier sur le marché de l'électricité.
Oui, la situation est unique avec une surabondance d'électricité sur le marché libéralisé européen. Du coup, les prix sont très bas. On parle de 3 centimes environ le kilowattheure. Plusieurs raisons à cela. D'une part, le fort développement avec l'aide d'argent public des énergies vertes, en particulier le solaire ou l'éolien dans le nord du continent. Mais surtout, le prix très bas de l'énergie fossile, le charbon notamment, ça permet aux usines thermiques de produire du courant à bon marché. Alors, on se trouve très probablement dans une phase de transition avec des prix qui devraient un jour remonter le plus vite possible, espèrent les gros producteurs qui perdent de l'argent, chacun espérant en Europe que son concurrent tombe avant lui.
Et à ce jeu-là, comment s'en sortent les entreprises électriques suisses, Stéphane ?
Bien, les deux géants que sont Alpiq et Axpo souffrent. Le kilowattheure issu, par exemple, de leur centrale nucléaire affiche un prix de production 2 fois plus élevé que le prix du marché. Concrètement, les entreprises nucléaires perdent de l'argent à chaque kilowattheure injecté dans le réseau. Idem pour la grosse hydraulique, elle produit en moyenne à 6 centimes et demi en comptant la redevance hydraulique. Donc, elles ont besoin d'argent frais et elles vendent une partie des actifs, 49% des barrages d'Alpiq. Cette nouvelle, on s'en souvient, fait l'effet d'une bombe, c'était le mois passé. Et cette question, est-ce que ces barrages resteront en main suisse ?
Est-ce que toutes les entreprises font des pertes ?
Alors, la situation est différente pour les entreprises qui ont des clients captifs. Des producteurs, distributeurs qui sont actifs sur un marché non libéralisé. En Suisse, les ménages ne peuvent pas changer de fournisseur. Ils sont condamnés à payer le prix fixé. Du coup, les entreprises, comme par exemple la bernoise BKV, peuvent limiter la casse. Idem pour la Romande Énergie. Elle a présenté hier un bénéfice d'1,2 million de francs.
Et quelle réponse apporte le politique à cette situation difficile des entreprises suisses ?
Alors, sur la question des barrages, la position de la conseillère fédérale Doris Leuthard est on ne peut plus claire. C'est une affaire qui concerne les entreprises privées. L'État n'a pas à intervenir. Punkt Schluss. Le Parlement, lui, s'est montré un peu plus compréhensif. Le lobby de l'énergie hydraulique, notamment les cantons de montagne, sont parvenus à intégrer les barrages à la RPC. C'est le subventionnement des énergies renouvelables. Et les exploitants pourront toucher 120 millions de francs comme aide à l'investissement pour éviter notamment une détérioration des ouvrages existants par manque d'argent. Mais pas encore de quoi sauver la branche. Une solution peut-être qu'on peut mentionner, une solution pour l'avenir, elle fait son chemin. Elle est portée notamment par le président du Conseil d'État valaisan, Jean-Michel Tchina, l'instauration de quotas d'électricité indigène. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les distributeurs seraient obligés d'avoir une part minimale d'hydraulique suisse dans le mix électrique qu'ils vendent au client final. C'est une forme de protectionnisme qui pourrait assurer un avenir au barrage suisse.
Et qu'en est-il de la libéralisation complète du marché, Stéphane ?
Le département de Doris Leuthard a mis en consultation il y a déjà plusieurs mois un projet. La libéralisation du marché pour les petits consommateurs, c'est un préalable pour adhérer un jour au marché européen de l'électricité. Mais attention, rien n'est encore fait. La gauche promet déjà le référendum, ceci avant même que le Parlement n'ait été saisi du message.
Stéphane Delery, en direct du Palais fédéral. On le voit, c'est un dossier compliqué, mais c'est un dossier fondamental pour l'avenir de notre approvisionnement énergétique. Pierre-Yves Maillard, Pascal Couchepin, vous êtes avec nous. Commençons avec vous, Pascal Couchepin. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que ces barrages non seulement font partie de notre patrimoine, mais que ce sont aussi des investissements durables qu'on ne peut pas laisser filer en main étrangère ?
Alors que ce soit des investissements durables, c'est évident. D'ailleurs, le fait que le coût de l'énergie issue de l'hydraulique est plus cher que le coût du marché, ça vient de ce qu'il faut amortir ces barrages sur la longue durée. D'ailleurs, c'est la même chose pour le nucléaire. Quand on parle du coût, ce que vient de dire votre correspondant, mon avis est faux. Si on bloque une centrale nucléaire, c'est une catastrophe parce qu'il faut amortir à 100% la centrale, tandis que si on continue à produire, on peut imputer une partie des amortissements sur la vente de l'énergie. C'est la même chose pour les barrages. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? À mon avis, il faut laisser aller les choses. Pourquoi Alpiq et Axpo ont des difficultés, Alpiq, à racheter une partie des barrages DOS notamment, à des prix qui aujourd'hui apparaissent comme trop importants? Entre-temps, EOS, m'a-t-on dit, a utilisé cet argent pour investir dans des usines de production alternatives qui n'ont pas toujours été un succès commercial, donc l'argent a disparu. Axpo a fait un peu la même chose. Alors, les barrages, ils sont en Suisse, ils resteront en Suisse. Et jusqu'à maintenant, personne ne s'est inquiété de savoir si le barrage de Moisins appartient à 10, 15 ou 20% à EDF, c'est-à-dire aux Français ou aux Allemands. Bien sûr que ça ne me fait pas plaisir de voir arriver tel ou tel investisseur étranger. Mais je crois que ça ne changera pas beaucoup par rapport à la situation actuelle. Et la pire des choses, ce serait dans une sorte d'élan émotionnel d'acheter à n'importe quel prix les parts de barrage et faire payer à ces malheureux consommateurs captifs l'argent. Dernier point, et après je laisserai la parole à Pierre-Yves Maillard. Dernier point. Je crois que c'était une erreur de subventionner les barrages. D'abord parce que le montant de 120 millions est insuffisant pour empêcher l'assainissement d'Axpo. Et puis le deuxième point, en particulier pour les cantons de montagne, ça permet à des députés des régions consommatrices de commencer à mettre en cause les redevances hydrauliques. Or, les barrages appartiennent en majorité aux gens du plateau et pas aux régions de montagne. Et en plus, alors on subventionne les gens du plateau, et puis après, avec ça, les gens du plateau vont venir dans les régions de montagne en disant « Mais écoutez, vous devez faire votre part d'effort et baisser les redevances hydrauliques. » Résultat, les propriétaires des eaux, les régions de montagne, sont défavorisés. C'était une erreur, une naïveté de voter cette subvention au barrage.
Pascal Couchepin, fidèle à son héritage libéral. Pierre-Yves Maillard, il nous dit...
Pourquoi fidèle à son héritage libéral ?
Parce que vous êtes fidèle dans votre position, finalement, à vos positions libérales. Vous avez dit qu'il faut laisser faire. Ça me paraît tout à fait cohérent à ce que vous avez toujours porté comme position. Et c'est là qu'on aimerait faire réagir Pierre-Yves Maillard. Est-ce qu'on peut laisser faire ?
Bon, vous savez, moi j'ai combattu déjà en 2002, maintenant, ça fait un bout de temps, la libéralisation du marché électrique, avec succès, puisque le peuple avait refusé cette voie-là. Elle s'est finalement imposée partiellement, après un processus juridico-politique qui serait trop long à rappeler. On en voit aujourd'hui les conséquences, c'est-à-dire une perte de maîtrise de ce secteur qui est pourtant stratégique. Et moi, ce qui me désespère, au fond, c'est de voir que les pires hypothèses qu'on faisait à l'époque, au fond, l'une des hypothèses qu'on faisait à l'époque, c'était de dire ce marché libéralisé va connaître des fluctuations de prix massives, soit des prix trop hauts, ça a été le cas notamment en Allemagne pendant un certain temps, soit des prix trop bas, des changements très très brutaux qui vont empêcher toute planification et toute politique d'investissement. Or, ce secteur, et là-dessus je crois qu'on est d'accord, nécessite des investissements et des investissements de long terme. Et dans un domaine aussi incertain, au fond, on ne va plus investir. Alors, on peut dire pendant un certain temps, c'est pas très grave. D'ailleurs, notre génération, et là-dessus, la génération d'hommes et de femmes politiques à laquelle j'appartiens, mais malgré mon désaccord sur ce sujet depuis longtemps, elle vit un peu comme une génération d'enfants gâtés. Il y a une génération avant nous qui a osé procéder à des investissements très importants dans le domaine routier, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine hospitalier, dans les investissements pour l'énergie, en sécurisant ces investissements avec quelque chose qui est devenu un gros mot, c'est le mot monopole, secteur réservé. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que c'est quelque chose de mal, c'est simplement un instrument de politique économique qui est utile dans certains secteurs, qui n'est pas dans d'autres. Je suis pas pour l'extension des monopoles.
Vous avez l'impression qu'on trahit cet héritage quelque part aujourd'hui.
Oui, parce que quand on a dit à des investisseurs, vous avez la responsabilité d'investir pour des structures telles que, par exemple, le barrage de la Grande Dixence. On peut pas leur dire, vous ne saurez jamais à quel prix vous pourrez vendre cette production. Sinon, vous trouvez jamais les centaines de millions qu'il faut ou les dizaines de millions qu'il faut pour de tels investissements. Donc, il faut leur donner une certaine visibilité, une certaine prévisibilité, une certaine stabilité. En contrepartie, on a des exigences. Dans un monopole, on doit apporter aussi des exigences. C'est la stabilité du prix, c'est le contrôle et la transparence sur la constitution de ce prix, c'est éviter des rentes de situation, et c'est aussi assurer la sécurité de l'approvisionnement. Mmh. Et ça a été un grand succès pour la Suisse. Mais on a oublié ces valeurs. Aujourd'hui, sur une mode de libéralisation, qu'on est bientôt les derniers à appliquer. C'est ça le plus fou. L'Europe est bientôt le dernier continent, le dernier espace économique à continuer à appliquer des méthodes libérales. La plupart des grandes zones économiques aujourd'hui ont des stratégies étatiques très agressives. Pensons à la Chine qui rachète à peu près tout ce qu'il y a à acheter en Europe, y compris en Suisse. Et puis pensons évidemment à ce que les Russes ont fait avec leur secteur énergétique. Ces secteurs énergétiques sont devenus des instruments de puissance. Alors j'en suis pas là, j'en suis pas à dire que la Suisse doit avoir un instrument de puissance avec son secteur énergétique, mais c'est en tout cas un élément de souveraineté et d'indépendance. Et je note qu'on n'a jamais eu autant de nationalistes aux chambres fédérales, mais que jamais aussi peu on a défendu réellement l'intérêt national et la souveraineté du pays dans des domaines infrastructurels aussi.
Pascal Couchepin, c'est vrai qu'il y a des cantons, hein, Vaud, Valais, des collectivités publiques qui se sont déjà montrés intéressés à racheter une part de ces barrages pour avoir une maîtrise de ce secteur, de pouvoir investir intelligemment, comme nous dit Pierre-Yves Maillard. Pourquoi est-ce que ces cantons ou ces collectivités publiques ne doivent pas prendre davantage part dans ces structures ?
Point 1, je crois que les barrages ne sont pas en péril. Vous savez que les concessions sont accordées pour une durée limitée dans le temps. Et les lois cantonales, notamment la loi du Valais, prévoient que le barrage doit être rendu en bon état de fonctionnement. Et les négociations commencent une dizaine d'années avant la fin de la concession. Par conséquent, on exige que les investissements soient faits, faute de quoi on risque de saisir des barrages pour la dette. Donc le risque d'investissement n'est pas. Deuxième point, on n'a jamais fait de promesse aux propriétaires des barrages que pour la vie éternelle, ils auraient des avantages et des rendements importants. Ils ont eu lieu pendant des années, 30 ou 40 ans. Ils ont pris un risque. Le risque n'est pas tout à fait celui qui se réalise. Mais c'est le cas dans beaucoup d'infrastructures. Troisième point, à part la Chine, qui n'est pas un modèle même économique, et la Russie qui vit seulement de la vente de matières premières, et notamment de ressources énergétiques, personne dans le monde ne veut redonner à l'État la maîtrise de la production électrique, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas savoir ce que sera demain la source de production d'énergie. Les mêmes milieux, et je les approuve, qui aujourd'hui disent il faut maintenir les barrages en main suisses alors qu'ils sont là, proposent de développer les énergies alternatives, qui vont être un choc pour les grandes installations de production, puis ce sera décentralisé, même les lignes risqueront d'être mises en difficulté. Alors personnellement, je pense qu'il faut garder en main publique, et peut-être qu'on aurait dû le faire auparavant, mais mon collègue Leuenberg était pour le maintien dans des mains des entreprises. Il aurait fallu mettre Swissgrid en main publique. Personnellement, je pensais juste, puisqu'il y a
la gestion du réseau, je précise pour les auditeurs.
Oui, je pense que c'est juste, puisque c'est un monopole de fait. Mais ensuite, ce n'est pas le moment d'acheter des barrages à un prix qui n'est pas celui du marché et de faire des pertes supplémentaires aux collectivités publiques. Maintenant, si c'est une bonne affaire, qu'ils prennent le risque. Mais personnellement, comme contribuable, je ne suis pas d'accord qu'on dise on va se garantir sur le dos des consommateurs captifs. Je trouve quand même un peu fort de dire on peut réussir une politique en ayant des captifs. On aura bientôt des captifs partout dans l'assurance maladie, et j'approuve qu'il y a une assurance maladie obligatoire.
On va pas ouvrir ce débat avec vous de ce soir, sinon ça sortira pas.
Dans l'énergie, on a des clients captifs, et puis petit à petit, les paysans veulent avoir des clients captifs. Tout le monde veut avoir des clients captifs. Mais à la fin, ce pays va se ruiner et tout le monde va être captif.
Pierre-Yves Maillard, c'est vrai que c'est une drôle de logique. En même temps, on ne sait pas du tout ce qui va arriver demain. On est à quelques années de l'ouverture totale d'un marché de l'électricité qui va faire baisser les prix. Est-ce que c'est le bon moment de prendre ce risque-là ?
Alors, d'abord, moi, je ne suis pas du tout. Je signale que le domaine de l'énergie, pour ce qui concerne les choix que le canton de Vaud devra faire, le cas échéant, est confié à notre collègue Jacqueline de Quattro, qui, avec les entreprises électriques dans lesquelles l'État dans l'entreprise électrique dans laquelle l'État a des participations, font des choix, des analyses. Et je ne veux pas du tout ici annoncer que nous allons, à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition, encourager ou voire même pousser l'État à investir dans des barrages, tout simplement parce que aujourd'hui le contexte ne permet pas de voir clair. Et même aujourd'hui, des entreprises électriques qui ont soutenu la libéralisation le disent, dans un contexte où la libéralisation totale menace, il serait très déraisonnable d'acheter des barrages qui produisent à 6 centimes alors que le prix du marché est à 2.
Justement, est-ce qu'il faut pas attendre?
Il y a aussi une autre raison que personne n'évoque. C'est un tout petit peu technique, il me faut juste 30 secondes. Vous savez ce qui se passe d'absurde? Parce qu'on a mis de l'absurde dans l'absurde. Aujourd'hui, les compagnies électriques qui ont des barrages ou toute autre centrale de production doivent chaque année valoriser dans leur bilan leurs entreprises de production indexées sur le prix du marché. pourquoi ça, tout à coup vous avez des pertes et des sommes colossales que perdent par exemple Axpo ou
Alpiq
ou Alpiq? Eh bien parce que ces sociétés-là, quand elles ont un barrage, quand le prix de marché, le prix de gros est à par exemple 10 centimes, et puis que tout à coup l'année suivante il descend à 2 centimes, comme ça peut arriver, on doit diviser par 5 la valeur de leurs actifs. Et donc, on doit écrire une perte sur l'exercice annuel. Et puis, si l'année d'après, le prix remonte, alors on va tout à coup hériter d'une somme comptable extraordinaire qu'on va s'empresser, effectivement, de distribuer aux actionnaires, qui ensuite devront le rendre quand il faudra, comme ça s'est passé pour Alpiq. Les actionnaires d'Alpiq ont obtenu beaucoup d'argent quand le prix était haut. Puis maintenant, ils doivent le rendre en sauvegardant les intérêts. Donc, on a complètement... Non seulement, on a le prix qui fluctue, ce qui pose des problèmes pour l'investissement futur, mais le prix qui fluctue pose des problèmes sur la valorisation des actifs, ce qui rend le système complètement fou.
Mais pour revenir à la question de base, pour revenir à Pierre Imaya, parce que la montre avance, pour bien comprendre, s'il y a un barrage aujourd'hui qui intéresse une grande entreprise étrangère qui aimerait en faire le rachat, par exemple, est-ce que les collectivités publiques en Suisse doivent s'engager si le prix est intéressant, si finalement, comme vous le disiez, c'est une opération économique intéressante, parce que c'est important de garder l'outil chez nous en Suisse.
Le drame aujourd'hui, avec un prix à 2 centimes, ces barrages vont être vendus à la casse. Ils ne valent plus, presque plus rien. Donc vous avez de grandes compagnies électriques européennes qui peuvent se dire, nous, vu notre masse, acheter maintenant, même avec des installations qui ne sont pas rentables, on le fait, on l'achète à un moment où ils seront très très bas, le prix de vente ne pourra pas être très élevé compte tenu du prix du marché, et puis dans 5 ans, dans 10 ans, puisque ces grands mammouths ont le temps de voir venir, peut-être que quand le prix remontera à 15 ou 20 centimes, eh ben les profits seront pour eux. Alors moi c'est ça qui me fascine, c'est de voir avec quelle vitesse on vend. Non seulement, alors que Syngenta soit vendu à des Chinois, c'est déjà, ça pose quelques problèmes, mais qu'on vende même, et qu'on ait même des partis majoritaires qui peuvent envisager tranquillement que des barrages suisses soient désormais vendus à des compagnies de grande taille européenne. Je dois m'empresser de dire que, malheureusement, compte tenu du contexte qu'on a créé, c'est une évolution à laquelle on devra peut-être se résoudre.
Pascal Couchepin.
Tout d'abord, les barrages feront retour aux collectivités concédantes dans quelque chose comme 15-20 ans. Donc, si quelqu'un rachète avec l'espoir dans 20 ans que le prix de l'électricité remonte, eh bien, il prend un risque considérable, d'autant plus que ça ne durerait que 5 à 10 ans avant que les barrages retournent gratuitement aux autorités concédantes. Donc, la période de risque serait prise en charge par celui qui achète des barrages. Si l'État de Vaud, par exemple, décide de racheter des barrages parce que c'est plus agréable politiquement d'acheter trop cher un barrage, mais j'espère bien qu'ils penseront à leurs contribuables, s'ils achètent trop cher...
On le fait tous les jours.
Bravo. Ouais. S'ils achètent trop cher le barrage, Alpiq fera une moins grande perte et il y aura moins d'amortissement à faire chez EOS, propriétaire d'Alpiq, et à l'État de Vaud, propriétaire d'EOS. Ça, c'est un problème politique, c'est pas un problème d'énergie. Mais ces barrages, ils sont en Suisse. Ils produiront encore pendant les 15 à 20 ans de l'énergie. Et au pire, s'il y avait une rupture du marché international, parce que le marché de l'électricité est venu européen, et on peut pas revenir à un cloisonnement à la Suisse, si un jour il y avait une rupture pour une guerre, quelque chose comme ça, il sera toujours temps de prendre des mesures extraordinaires pour donner la priorité de la consommation de cette énergie aux Suisses.
Pascal Couchepin, je vais vous soumettre un avis autorisé qui va vous intéresser sans doute, c'est celui de Pierre-Alain Huret, qui est directeur général de Romois d'Énergie. On le recevait lundi soir dans cette émission, après que l'entreprise ait présenté ses chiffres. Et puis, lui, alors, il nous disait que la perspective de voir des entreprises étrangères racheter ces barrages n'était pas sans danger. On l'écoute et on vient à vous.
C'est vrai, ces barrages vont rester en Suisse, même s'ils sont achetés par des étrangers. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que la gestion de l'énergie, au moment où elle serait faite par des étrangers, ne veut pas dire que cette énergie pourrait être attribuée pour la Suisse. Donc c'est une question aussi hautement politique, c'est une question de sécurité énergétique pour savoir est-ce que l'on veut assurer une sécurité d'approvisionnement à long terme à l'ensemble des citoyens suisses. Et je pense qu'on doit quand même faire une réflexion pour ne pas dépendre exclusivement de l'étranger.
On vous voit froncer les sourcils, hein. C'est
oui,
pas du tout
parce que ça, c'est naturellement une réponse politiquement correcte à l'égard de ces actionnaires qui sont souvent des collectivités publiques. Mais le marché est international. Et on achète en permanence et vend en permanence de l'énergie. Et les barrages devraient fournir de l'énergie de pointe. Or, la théorie qui est tenue maintenant par M. Jurek, qui connaît d'ailleurs le fond du problème, c'est qu'elle devrait être vendue seulement lorsque l'énergie en bande, l'énergie nucléaire et les autres énergies en bande n'est pas disponible ou n'est pas suffisante. Vendre en l'énergie de pointe hautement valorisable pour couvrir les besoins les plus ordinaires, c'est du gaspillage. C'est comme si on disait, l'or de la Banque nationale doit servir à remplacer l'acier qu'on n'a pas en Suisse. Mais non, même si c'est solide, je ne sais pas si l'or est solide, je crois, on ne doit pas le faire. Et on ne doit pas le faire avec les barrages. Il faut laisser avec un peu de légèreté. Or, à part ça, les barrages appartiennent déjà en partie aux étrangers.
C'est vrai, c'est vrai.
Moi, je constate que ce pays a ces dernières années... payé cher ou en tout cas dû mettre beaucoup d'argent pour sauver des entreprises privées. Je pense par exemple à UBS qui a dû être sauvé avec à peu près plusieurs dizaines de milliards d'argent de la Banque nationale. Je dis pas qu'on a perdu de l'argent, je dis qu'on a dû en engager. Et en risque.
Ça a fini par rapporter de l'argent.
Qu'il y a deux poids, deux mesures. Que quand il s'agit d'une banque, et d'ailleurs les cantons ont aussi dû sauver leur banque cantonale, mais que j'aimerais juste que les partis bourgeois recommencent comme leurs prédécesseurs à ne pas penser qu'à la défense des banques, mais à aussi penser qu'un pays souverain a besoin de quelques infrastructures existentielles. L'énergie en fait partie. Les transports, les grands réseaux de transport public aussi. Et je suis pas en train, j'attends déjà qu'on m'accuse d'être un communiste, je suis juste en train de rappeler que les succès de ce pays, si on a un tout petit peu de profondeur historique, sont aussi dus sur des choix courageux d'investissement à long terme qui ont fait l'indépendance, la souveraineté et la capacité de modernisation de ce pays. On avait attendu le marché pour électrifier nos fermes reculées, nos villages et nos villes, si on avait attendu le marché pour développer la téléphonie, je peux vous dire qu'on aurait attendu longtemps
et que je n'aurais pas le visage. Dois-je vous rappeler simplement que les chemins de fer ont été créés par des privés, ensuite ils ont été repris par la Confédération et j'approuve qu'il y a un certain nombre d'infrastructures, mais il ne faut pas être nostalgique des infrastructures du passé, il faut voir quelles sont les infrastructures de l'avenir où on doit intervenir.
Par exemple l'éducation. Oui. Revenons un tout petit peu en arrière, je ne résiste pas à la tentation de vous soumettre ces quelques lignes qui sont issues de l'argument pour le référendum durant l'hiver 2000-2001 sur la votation, le référendum contre la nouvelle loi sur l'électricité, c'était il y a 15 ans, et dans leur argumentaire, Pierre-Yves Maillard et ses collaborateurs écrivaient « La libéralisation met en concurrence les centrales hydrauliques de Suisse avec des entreprises 100 fois plus grosses, vendant à bas prix grâce à des subventions étatiques du nucléaire ou de l'énergie produite à partir du charbon. » Pour survivre, les centrales hydrauliques suisses supprimeront des milliers de places de travail, cesseront d'investir ou se vendront à des monopoles européens. Alors, c'était en 2001.
Oui, mais on n'imaginait pas à l'époque...
Merci d'avoir de temps en temps...
On n'imaginait pas à l'époque, si vous permettez, que l'État allemand, dans sa volonté de planificatrice, allait détruire le marché hydraulique. L'État est intervenu et ça a été la catastrophe.
La phrase qui vient d'être citée dit exactement ça. La naïveté suisse de croire que les autres vont respecter un marché comme ça idéal. Chacun joue ses intérêts.
Laissez-moi dire que ce marché est international. Il est pollué aujourd'hui par les interventions étatiques. Il faut revenir à une saine intervention étatique qui porte notamment sur les autoroutes de l'énergie. Là, il n'y a pas de discussion. Il faut, pour équilibrer le réseau, l'intervention, et puis le reste, laisser faire aussi la technologie qui évolue et qui aboutira probablement à un nouveau choc dû au solaire et aux nouvelles technologies de production d'électricité.
La naïveté des libéraux suisses... Dans ce petit pays, nous sommes un petit pays avec des petites compagnies. En plus, déjà, nous sommes un petit pays, on n'a même pas une compagnie nationale, on n'a même pas des compagnies cantonales, on a parfois même des compagnies infracantonales. Et dans un contexte pareil, vouloir ouvrir son marché, alors que vous avez des mammouths nationaux qui vont jouer leur intérêt, ils ne sont pas intéressés au marché, ils sont intéressés à leur développement. Et ce n'est pas de la doctrine, c'est justement ce qui est en train de se réaliser.
C'est
et
dû
que nous
à
avions
l'intervention
nous-mêmes anticipé en 2002.
C'est dû à l'intervention étatique.
Messieurs, on arrive au terme de ce débat. Pascal Couchepin, vous avez commencé. Le dernier mot de la fin sera pour vous, Pierre-Yves Maillard, mais ce sera très rapide. Ce sera un mot. Ce sera un mot, Pierre-Yves Maillard, parce que la montre avance. J'évoquais tout à l'heure ce combat référendaire gagné. Hein, il a marqué les esprits.
Qui était une erreur.
Il y a 15 ans en arrière. Ça, c'est votre avis, etc. Ouais. Si on va de nouveau vers une libéralisation complète du marché? Oui ou non, est-ce que vous l'attaquerez de nouveau par référendum?
Alors, à titre personnel, évidemment, et heureusement que le peuple nous a suivis en 2002, parce que grâce à ce vote, nous avons encore des compagnies électriques qui s'en sortent.
Je me pense que
sans ça, on aurait la situation d'Alpiq serait généralisée à toute l'économie électrique.
Merci infiniment d'avoir débattu ce soir avec nous. Pascal Couchepin, Pierre Maillard, bonne soirée.